Bonjour, Morgane sur CFM, dans l'émission « Les hommes sont des animaux comme les autres », l'émission mensuelle consacrée aux animaux et aux thérapeutiques naturelles. Aujourd'hui, Valérie Proust, praticienne en fleur de Bac, va nous parler de l'état de solitude. Ensuite, je vous parlerai des signaux d'apaisement chez le chat. Rejoindre sur CFM dans l'émission Les hommes sont des animaux comme les autres. On retrouve comme tous les mois Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour Morgane.
Donc de quoi as-tu choisi de nous parler ce mois-ci ?
Alors aujourd'hui on va parler de l'état de solitude. Voilà. Donc il y a trois fleurs dans cet état-là. Mais des fleurs très importantes parce que l'état de solitude touche beaucoup de personnes. En général, c'est quelque chose d'assez souffrant. Et c'est intéressant de voir comment on peut en venir à se retrouver vraiment oublié quelque part ou coincé, voilà, dans ces états. Donc il y a une première fleur qui est la water violette, qui est donc la violette d'eau. En fait, les personnalités sont plutôt des êtres, des personnes très très indépendantes, qui seront réservées, solitaires. C'est pas des gens extravertis en général. C'est des personnes qu'on va considérer ayant une attitude distante, fière un peu.
L'orgueil aussi, ça peut être.
Oui, voilà, c'est quand même une fleur marquée par la, une attitude marquée par l'orgueil aussi. Et en fait, la fleur, elle va apporter la communication de l'humilité, parce que ces personnes ont des attitudes où elles vont se montrer un peu distantes avec les communs des mortels, entre guillemets, avec les personnes, avec Monsieur Tout le Monde. Et en fait, la fleur va permettre de leur apporter cette capacité de communiquer. C'est pas des personnes qui vont délibérément rejeter les autres. C'est qu'en fait, elles ne savent pas comment communiquer.
Ah oui.
Ces personnes, elles savent pas prendre la parole devant un groupe. Elles sont très bien en petit comité, parce que là, elles peuvent communiquer. En général, ces personnes-là ont beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à partager. Mais comme elles sont assez élitistes, grâce justement à leur centre d'intérêt qui peuvent être très spécifiques, elles vont rechercher des personnes qui ont les mêmes connaissances qu'elles ou le même centre d'intérêt. Et en fait, elles vont se suffire que de petits groupes. Et le docteur Bach disait que ces personnes étaient des bénédictions pour la nature, pour la vie en général, pour l'humanité, parce que en général, c'était des gens qui avaient des grandes connaissances dans peu importe les domaines, mais qui étaient très très intelligentes aussi.
Ouais.
Et leur problème, c'est qu'elles ne savaient pas partager.
Ah oui.
Et c'était ça qui était important en fait, c'est quand on a des connaissances, c'est de pouvoir aussi transmettre et de communiquer.
Oui.
Et là, c'est vraiment ce qu'apporte cette fleur là, c'est l'aide à transmettre, à partager, à communiquer.
Communiquer.
Voilà, donc
Je pense par exemple aux chevaux qui s'intègrent pas bien dans un troupeau ou qui paraissent rester dans leur coin ou qui comprennent pas bien peut-être les comportements les codes des autres chevaux. On peut parler peut-être aussi des chiens qui sont croisés avec des races plus sauvages comme les huskies ou même avec des loups qui du coup sont pas complètement intégrés.
Exactement, parce qu'ils sont pas, ils sont entre deux, ils ont référence à un autre monde, enfin une autre race, donc pour eux, ils ont peut-être du mal à se retrouver comme les autres.
Ouais.
Voilà, c'est certainement ça fait partie de cet aspect-là, oui.
Et certains chats aussi des fois qui ont l'air un petit peu hautains, qui sont un peu dans leur coin.
Exactement, exactement.
Comme des siamois des fois, bon pas tous les siamois mais certaines races comme ça qui des fois certains individus qui peuvent être un petit peu dans leur coin.
Ouais, qui marquent un peu de dédain pour les autres. Ouais.
Ça peut aider aussi à se remettre un petit peu avec les autres.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment la fleur de la communication, donc ça fait sortir de cette réserve un peu de fierté qu'on va considérer comme ça, mais qui voilà, c'est comme s'ils n'avaient pas cette notion, savoir communiquer.
Oui.
Voilà. Donc c'est un aspect vraiment de solitude. Alors un autre aspect de solitude, c'est l'impatience. Alors l'impatience, c'est une fleur extrêmement intéressante. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est considéré comme une fleur de solitude, parce que la vraie impatience, ça génère de l'irritabilité, à l'excès de l'agressivité et de la frustration nerveuse. On est impatient quand on a du mal à suivre, à accepter le rythme de quelqu'un qui est lent.
Oui.
On va dire bon bah laisse, je vais le faire à ta place.
On est trop rapide par rapport aux autres, qui ont un rythme normal.
Et du coup, comme on c'est des impatients, on est un peu des bulldozers. Et finalement, on va pas toujours prendre des gants pour exprimer les choses en disant bon laisse-moi faire ou voilà. Donc, en général, ben, les gens, ils finissent par nous éviter. Donc, voilà pourquoi les impatients se retrouvent seuls. Et en fait, on aime faire les choses à notre rythme.
Ouais.
Et c'est vraiment une difficulté de prendre sur soi pour comprendre que une autre personne peut être aussi compétente ou intéressante, mais faire les choses à son rythme, elle aussi. Enfin bon, c'est ça. Donc cette fleur est très très importante parce que l'extrême de l'impatience, c'est quand même l'agressivité. Et puis voilà, on va, les gens vont finir par plus nous supporter. Et ben l'opposé de l'impatience, c'est tout simplement la patience. Mais il faut en faire l'expérience pour savoir que c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, un impatient type, ben il va être surpris parce qu'on découvre derrière de la douceur, de la délicatesse, de la gentillesse, de la modération dans nos actes, dans nos paroles. Et c'est un trésor pour quelqu'un qui n'a jamais voilà, parce que en fait l'impatient, il est pas méchant, il a un rythme extrêmement particulier.
Et ouais, mais qui colle pas forcément à celui des autres.
Il peut devenir insupportable et finir par par faire en sorte que les personnes ne le supportent plus.
Et ouais, être
et
rejeté.
Donc se retrouver seul. Mais en même temps, l'impatient aime bien la solitude parce que la peur, savoir que dans chaque fleur il y a une peur derrière. Hein. Et la peur de l'impatient, vraiment, c'est d'être limité. Et à partir du moment où on va mal se prendre avec un impatient, qu'on va lui dire des choses qu'il doit faire et tout, lui, il va avoir peur de perdre son autonomie, sa liberté. Et donc, du coup, il va se sentir irrité, limité, comme si on se met tout de suite, il se retrouve en cage, un prisonnier. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour lui. Et c'est ça qui va le rendre agressif et le faire sortir de ses gonds. Donc la colère d'un impatient, c'est pas grave parce que ça monte et ça descend tout de suite. Donc il est pas rancunier, il est pas.
C'est sur le coup, quoi. Vraiment.
Voilà, c'est sur le coup. Mais enfin, ça explose. Ouais. Ça peut être très violent et puis déstabiliser des gens sensibles autour ou voire même épuiser des gens qui empathisent tout le temps et fatigués et puis se retrouver seul. Évidemment.
Et je pense aussi aux chevaux qui n'ont pas de patience quand on les brosse, qu'on les selle, qu'on les prépare, ou au maréchal ferrant, ou quand, des animaux quand on doit les soigner.
Exactement.
Qui s'impatientent, qui trépillent.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Là, c'est vraiment une fleur très, très, très intéressante. Et puis, dans plein d'aspects de la vie, on se retrouve dans la patience. En voiture, c'est le meilleur exemple. Quoi.
Quand est-ce qu'on arrive?
Et qu'est-ce qu'il fait l'autre devant? Il démarre pas au feu, etc. C'est vraiment plein de petits aspects de la vie où on est dans cet état-là, où on se stresse aussi. Et en fait, on découvre un peu de lenteur, un peu de changer de rythme et puis de relativiser justement. Parce que ça met dans un état d'extrême nervosité, sensibilité, et puis voilà, quelqu'un qui est toujours en train d'anticiper dans l'avenir ce qu'il doit faire demain, on a à peine terminé une chose qu'on est déjà en train de passer à l'autre, etc. Ça, c'est épuisant en même temps, ça fatigue. Et en même temps, du coup, on n'est pas non plus très présent pour ce qui se passe, pour écouter les autres, pour savoir. Donc c'est une fleur très très importante, très intéressante. Voilà, la dernière fleur de la solitude, c'est la bruyère. Alors, elle s'appelle heather en anglais. Et alors, ça, c'est une fleur qui permet de comprendre, en fait, les personnes qui sont envahissantes, qui sont égocentriques, qui quelqu'un t'appelle, par exemple, et puis va parler une demi-heure avec toi, mais que d'elle. Et puis, tu peux poser le téléphone à côté, continue de parler d'elle. Et puis, elle te dit au revoir. Ça lui a fait du bien de te parler, mais elle t'aura pas demandé comment toi tu allais. Et en fait, ce sont des personnes qui sont dans la peur de la solitude. Et elles ont tellement du mal à gérer la solitude qu'elles ont besoin d'être tout le temps
accaparer l'attention
des autres. Et elles sont sans arrêt en train de rechercher la compagnie, voilà, mais sans se rendre compte que elles prennent l'énergie, elles envahissent quoi.
Des animaux aussi des fois qui veulent qu'on s'occupe d'eux, qui viennent tout le temps faire les fous devant. Les chiens et les chats des fois,
Oui, tout à fait. Donc, elle permet de se recentrer, de se positionner dans un. En fait, la personne va se taire au bout d'un moment. Et puis elle va se mettre dans l'écoute. Elle va changer de place en fait et intégrer la sécurité qui est liée à cette peur de la solitude. Et ça c'est quelque chose de très intéressant parce que ben la peur de la solitude ça touche quand même tout le monde. Mais plus elle en a peur cette personne, plus elle va s'extérioriser et puis ben se retrouver seule parce que les gens ben ils vont voir maintenant on voit les numéros s'afficher mais on décroche pas quoi. Donc parce qu'on sait qu'on en a pour une demi-heure voire minimum. S'il y a rien de nouveau, bon, c'est déjà toute l'histoire, etc., etc. Et puis, bon, voilà.
Il y a peut-être d'autres choses à faire aussi à ce moment-là.
Exactement. On n'est pas toujours disponible. Et puis, finalement, ben, c'est cet aspect. La personne a peur de la solitude, mais elle va la générer encore plus puisqu'on va l'éviter. Voilà.
Donc, ouais, c'est un cercle vicieux.
Exactement. Donc, voilà. La fleur va permettre à la personne de comprendre ce que c'est que l'altruisme, c'est-à-dire s'intéresser à l'autre aussi.
Et pour des animaux, des chiens ou des chats par exemple, qui supportent pas de rester tout seul à la maison en attendant que la personne rentre.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ou des chevaux qui donnent des coups dans les parois des box parce qu'ils supportent pas d'être tout seul aussi ou qui veulent qu'on vienne les voir.
Ouais. Et en fait, c'est vraiment cette fleur là pour apprendre à gérer la solitude. Et elle est vraiment, elle amène vraiment la sensation de découvrir l'ouverture de l'aspect à l'autre, quoi. De finalement d'arrêter d'être auto-centré et de prendre conscience que l'autre aussi a une histoire, l'autre aussi et puis de découvrir qu'on peut écouter les autres. Et donc c'est une très très belle fleur, voilà. Donc voilà, ça c'est les trois aspects de la solitude par les fleurs de Bach.
Ok, ben merci Valérie.
Merci.
Donc on rappelle que tu es praticienne en fleurs de Bach à Marcillac-Vallon et que tu consultes aussi par téléphone pour tout ce qui est trouble émotionnel, pour les gens ou pour les animaux. Voilà, donc merci et à la prochaine fois. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their place.
Ce mois-ci, j'aimerais vous parler du langage corporel du chat et des signaux d'apaisement. Il y a parfois des incompréhensions dans la communication entre un chat et son humain qui peuvent être source de stress ou d'agression. Le chat n'est ni imprévisible ni sournois, il est simplement totalement incompris. Si une partie des signaux du chien sont globalement bien compris pour ce qu'ils sont, ceux du chat, pourtant très clairs, sont totalement ignorés car inconnus pour la plupart des gens. En effet, un chat ne griffe pas subitement sans raison, il a envoyé auparavant de nombreux signaux que vous n'avez pas perçus. Par exemple, lorsque votre chat monte sur vos genoux, vous fait des câlins et d'un coup se met à vous mordre sans raison apparente. Pourquoi fait-il cela? Lorsqu'il vient sur vos genoux et se roule en boule, il apprécie votre chaleur et a envie d'être là à ce moment-là. Mais nous, humains, en déduisons qu'il veut des caresses, ce qui n'est pas forcément le cas. Parfois, le chat apprécie les caresses et ronronne, tout le monde est content. Mais au bout d'un moment, il en a assez et vous envoie des messages clairs en langage félin, qui sont des signaux de mise à distance. Ses oreilles basculent légèrement en arrière, il arrête de ronronner, il bat de la queue, le diamètre de ses pupilles augmente ou diminue, il commence à se lécher, se gratter ou il bâille. Il se soustrait à la caresse, se recule, détourne la tête. Il se passe rapidement la langue sur la truffe, c'est un signe de tension. Il semble frissonner, son poil tressaille, c'est aussi un signe de tension. Il lèche la main, ici ce n'est pas un câlin mais une demande de cesser, ou il repousse avec une patte. S'il montre certains de ces signaux, la seule bonne attitude à avoir serait d'arrêter de le caresser. Et d'autant plus s'il n'a pas montré de signes de bien-être auparavant, comme ronronner, fermer les yeux ou les avoir mi-clos. Mais malheureusement, souvent l'humain ne voit pas ces signes d'irritation et prend le léchage de la main pour un encouragement à continuer, ce qui est tout le contraire. Avec un autre chat, ces signaux de mise à distance qu'il a envoyés auraient été compris et la réponse appropriée. Or ici, l'inadéquation entre le message envoyé et la réponse qu'il reçoit de l'humain, et qui ne prend pas en considération ses demandes de mise à distance, entraîne de la tension et de l'irritation chez le chat. Il se sent envahi dans son périmètre corporel, et comme on continue à le caresser, il va tout simplement passer à l'étape suivante de la mise à distance dans son code de communication, la morsure. Bien souvent, le chat est alors puni et reçoit une petite tape pour lui apprendre à ne pas mordre. Mais du point de vue du chat, cette réprimande est tout à fait injuste puisque c'est vous qui n'avez pas adopté le bon comportement. Cela peut aussi créer du stress chez le chat, car vous apparaissez comme un être imprévisible et potentiellement menaçant. Le chat peut développer une certaine méfiance, voire de la crainte. Puisque ses demandes de mise à distance ne sont pas prises en compte, la prochaine fois, il passera peut-être directement à la morsure sans prévenir. Si le chat subit souvent des intrusions et que son périmètre corporel n'est pas respecté, il peut devenir de plus en plus réactif et le voilà agressif. Pour éviter une situation qui s'empire avec un chat stressé ou devenu agressif, il suffit de mieux l'écouter en restant attentif à ses signaux de communication et de mise à distance. En les respectant, vous pourrez lui montrer que vous le comprenez. Vous pouvez lui proposer un contact plus progressif lorsqu'il vient vers vous et garder en tête qu'il veut peut-être juste profiter de votre chaleur. Faites-lui renifler votre main et observez sa réaction, s'il s'y frotte et semble vouloir poursuivre le contact ou non. Un autre exemple, votre chat arrive dans le salon et se roule sur le tapis. Vous vous approchez de lui pensant qu'il vous invite à le caresser avec son ventre en l'air. Mais là, il vous attrape les mains et vous boxe avec les pattes arrière. Il veut jouer ? Une partie de bagarre commence alors, jusqu'au moment où, trop excité, il finit par vous griffer et partir en courant. Il ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Un câlin ? Jouer ? Mais pourquoi griffe-t-il ? Un chat qui se roule par terre, contrairement à ce qu'on pense, ne réclame pas de contact. C'est une façon pour lui d'occuper l'espace et de montrer sa présence sur le territoire. En prenant cela pour une demande de caresse, on interprète mal le message du chat, qui n'a peut-être pas du tout envie de contact et va le faire comprendre en repoussant la main à sa manière, en boxant avec les pattes arrière. Ce n'est pas du tout une position de jeu, mais typiquement de défense dans laquelle il peut mobiliser ses griffes et ses dents contre son adversaire. Le message envoyé est clair, laissez-moi tranquille. Mais on continue prenant ce comportement pour un jeu. À bout de patience, il n'a plus qu'une solution, se défendre en griffant ou en mordant et s'enfuir. Les signes d'apaisement sont une forme de communication non verbale utilisée par les animaux. Ce sont les signes pour annoncer une non-confrontation et peuvent être également des gestes qui permettent à l'animal de se calmer, de s'apaiser et d'évacuer le stress. Voici les principaux signes d'apaisement chez le chat. Le détournement du regard, le clignement des yeux, le bâillement, le léchage du bout du nez, le léchage de la patte et de la poitrine, le ronronnement dans certains cas. Le ronronnement peut avoir deux significations bien différentes chez le chat. Pour savoir ce qu'il signifie réellement, c'est l'ensemble des signaux émis par l'animal qu'il faut prendre en compte, ainsi que la situation dans laquelle il les exprime. Le chat qui ronronne de plaisir va associer de nombreux autres signes à ce ronronnement. Il va fermer un peu les yeux, se relâcher au niveau musculaire, se frotter, s'endormir et souvent pétrir des pattes avant. Dans certains cas, il peut même baver. En bref, il apprécie et cela se voit. On retrouve souvent ce comportement lors des câlins si l'animal les apprécie. Mais le ronronnement peut apparaître dans des situations bien moins évidentes. Ainsi, il arrive qu'un chat se mette à ronronner sur la table du vétérinaire, quand on le dispute ou lorsqu'il est malade. N'allez pas croire qu'il apprécie pour autant. Dans ce cas, le ronronnement est une recherche d'apaisement. Clairement, le chat ne se sent pas à l'aise et recherche ainsi soit à s'apaiser lui-même, soit à apaiser l'autre avec qui il est en conflit. C'est au contraire un signe de tension et de malaise plutôt que de contentement. Le chat cherche ainsi à éviter l'affrontement et tente de réduire les tensions qu'il vit. Il tente ainsi avant tout de se rassurer car clairement il n'est pas serein. C'était Morgane sur CFM dans Les hommes sont des animaux comme les autres. Je vous quitte avec une citation de Suzanne Taylor. Utilisez vos erreurs comme autant de pas vers une meilleure compréhension et de plus grands accomplissements.
Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la